et du gel.
Buck vivait dans une grande maison de la vallée ensoleillée de Santa Clara, la propriété du juge Miller, c'est ainsi qu'on l'appelait. Elle était située à l'écart de la route, à demi cachée par un rideau d'arbres, laissant entrevoir la large et fraîche véranda qui en faisait tout le tour. On approchait de cette maison par des allées couvertes de gravier qui serpentaient au milieu de vastes pelouses et qu'ombrageaient des branches entrecroisées de hauts peupliers. À l'arrière, on avait même vu encore plus grand que sur le devant. Il y avait de spacieuses écuries où s'affairaient une douzaine de valets et de garçons. Des maisonnettes alignées et couvertes de vignes réservées aux domestiques. Et, à perte de vue, des remises bien en ordre. De grands arbres fruitiers, de verts pâturages, des vergers et des carrés de baies. Puis, il y avait l'installation de pompage pour le puits artésien et la grande citerne en ciment où les fils du juge Miller plongeaient chaque matin et se tenaient au frais dans la chaleur de l'après-midi. Or, sur ce grand domaine régnait Buck. C'est là qu'il était né et qu'il avait passé les 4 années de son existence. À vrai dire, on y trouvait d'autres chiens, il y en avait forcément d'autres sur un si vaste espace, mais ils ne comptaient pas. Ils allaient et venaient, logés dans les chenils bondés ou menaient une vie obscure dans les recoins de la maison. Comme toutes, le carlin japonais, ou Isabelle, la chienne mexicaine sans poils. Étrange créature qu'on voyait rarement mettre le nez dehors ou marcher sur le sol. Et d'autre part, il y avait les fox terriers, une 20aine au moins, qui jappaient de timides menaces à Toots et à Isabelle quand ils les regardaient par les fenêtres, protégés par une légion de femmes de chambre armées de balais et de serpillères. Mais Buck, lui, n'était ni un chien d'intérieur, ni un chien de chenil. Le domaine entier lui appartenait. Il plongeait dans la citerne de bain ou partait à la chasse avec les fils du juge. Il escortait ses filles, Molly et Alice, dans leurs longues randonnées du crépuscule et du petit matin. Les soirs d'hiver, il restait couché au pied du juge, devant le feu de la bibliothèque qui ronflait. Il portait ses petits-fils sur son dos, ou bien les faisait rouler dans l'herbe et surveillait leurs pas au cours d'équipées aventureuses qui les menaient jusqu'à la fontaine, dans la cour de l'écurie, et même au-delà. Vers les paddocks et les carrés de paix. Au milieu des fox terriers, il prenait un air impérieux. Quant à Toots et à Isabelle, il les ignorait totalement, car il était roi. Roi de toutes les créatures qui marchaient, rampaient ou volaient dans la propriété du juge Miller, êtres humains compris. Son père, Elmo, un énorme Saint-Bernard avait été l'inséparable compagnon du juge, et Buck semblait destiné à assumer sa succession. Il n'était pas aussi grand. Il pesait seulement 140 livres, car il tenait aussi de sa mère, Shep, un chien berger écossais. Néanmoins, ces 140 livres, auxquels s'ajoutait la dignité liée à une vie de bien-être et à un respect général, lui permettaient d'arborer un maintien vraiment royal. Pendant les 4 années qui s'étaient écoulées depuis sa naissance, il avait vécu l'existence d'un aristocrate repu. Il se montrait très fier de lui, et même un peu égocentrique, comme finissent souvent par l'être les hobereaux de campagne, du fait de leur situation d'isolement. Mais il avait sauvé l'honneur en ne devenant pas simplement le chouchou de la maison. La chasse et les joies familiales en plein air avaient limité son embonpoint et durci ses muscles. Et comme il appartenait à une race de bêtes qui apprécie l'eau froide, son goût des bains glacés l'avait fortifié et avait préservé sa santé. Voilà donc quel était le chien Buck à l'automne 1897, lorsque la découverte du gisement du Klondike attira dans le nord glacé des hommes venus du monde entier. Mais Buck ne lisait pas les journaux, et il ne savait pas non plus que Manuel, l'un des assistants du jardinier, était une fréquentation peu recommandable. Ce Manuel avait un très grand défaut. Il adorait jouer à la loterie chinoise. En outre, dans sa passion du jeu, il faisait preuve d'une très grande faiblesse. Il croyait en un système, et c'est ce qui le condamnait irrémédiablement. Car l'utilisation d'une martingale exige de l'argent.